From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 177th semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. And music for this session is provided by a young women choir,
un chœur de jeunes filles de Pieux, de Mapleton et de Springville en Utah.
This broadcast is furnished as a public
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Thomas S. Monson, First Counselor.
Thomas S. Monson, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this afternoon.
Nous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Hinckley, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, frère Monson, de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes filles de pieux de la région de Mapleton et de Springville en Utah, sous la direction de sœur Manu Harris, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira ce service religieux en chantant « Come Rejoice ». Ensuite, Kenneth Johnson, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our Heavenly Father,
Père Céleste,
in meekness and with reverence,
avec humilité et révérence, nous t'exprimons notre reconnaissance
for the many blessings
pour les nombreuses bénédictions que tu as déversé sur nous. Nous te remercions de ton amour. Nous t'exprimons que tu nous exprimes de tant de façons par le don de ton Fils Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire, de ton merveilleux plan du bonheur qu'il a permis d'être efficace. Nous te remercions d'avoir rétabli l'évangile par l'intermédiaire du prophète Joseph et d'avoir aujourd'hui un prophète, le président Hinckley, qui détient les clés à cette époque pour administrer ton œuvre. Te prions que notre foi et nos prières soutiennent la présidence, première présidence et le Collège des Douze. Te prions pour ceux qui sont en difficulté, pour qu'ils trouvent du réconfort dans l'Évangile. Te prions pour ceux qui nous protègent et s'efforcent de conserver la liberté dans le monde. Veuille les bénir, Père. Nous te prions pour les missionnaires. Et en certaine manière, les membres sont missionnaires et nous te demandons de ces bénédictions. Et te remercions de ton amour. Nous t'en sommes reconnaissants, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen.
Raise your sweet voice, O Lord.
The choir just sang.
Le chœur vient de chanter la première prière de Joseph Smith. Très bien interprété. Nous aurons maintenant le plaisir d'écouter M. Russell Ballard et Joseph B. Worthlin du Collège des Douze Apôtres. Après leur discours, nous entendrons Bruce D. Porter et Eric Kopischke des 70. Elder Ballard.
Brothers and sisters, since
mes frères et sœurs, depuis le 150e en 1997, il y a eu dans le monde entier une augmentation spectaculaire des demandes de renseignements sur l'Église. Cet intérêt grandissant est suscité par notre croissance rapide, par des événements comme les Jeux olympiques d'hiver ici à Salt Lake City, et par la notoriété acquise par beaucoup de nos membres dans la profession qu'ils ont choisie. Je suis sûr que ces questions sont posées non seulement à l'Église, mais aussi à vous personnellement. Il n'est pas facile d'expliquer quelque chose d'aussi vaste que l'Église ou d'aussi merveilleux que l'Évangile rétabli à des personnes qui ne savent quasiment rien sur nous. Il peut même être difficile de répondre à des questions portant sur un aspect déterminé, parce que chaque question semble en susciter d'autres. La demande que l'on nous fait le plus couramment est assez simple et se formule plus ou moins comme ceci. Parlez-moi un peu de votre Église. La clé ici est « un peu ». On ne nous dit pas « dites-moi tout ce que vous savez » et puis envoyez d'autres personnes me dire tout le reste. Nous sommes naturellement heureux de l'intérêt des gens et beaucoup voudront que nous leur en disions davantage sur notre doctrine et nos croyances. C'est pour cela que nous avons plus de 53 000 missionnaires à plein temps qui œuvrent à leurs propres frais dans le monde entier. Mais nous ne devons pas oublier qu'il y a une différence entre l'intérêt et la simple curiosité. Parfois, les gens veulent juste savoir ce qu'est l'Église. Ceux qui manifestent cette curiosité générale méritent des renseignements clairs et précis venant directement de nous qui sommes membres pour qu'il n'ait pas à s'en remettre aux réponses incomplètes, aux demi-vérités, aux déclarations fausses qui peuvent venir des médias ou d'autres voies extérieures. Nous sommes un peu responsables des nombreux malentendus et informations fausses qui circulent sur l'Église pour n'avoir pas expliqué clairement qui nous sommes et ce que nous croyons. Le comité de la communication dont je fais partie a appris qu'il y a un grand besoin de déclarations claires et simples, susceptibles de présenter à ceux qui sont curieux des renseignements de base sur l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais vous parler de certaines choses que nous avons trouvées utiles. Il serait bon que vous dressiez votre propre liste simple de points à mentionner qui vous aidera à expliquer ce que nous croyons à vos amis et connaissances d'autres religions. Il peut être utile pour vous, comme ça l'est pour moi, d'avoir sur une seule page quelques faits sur ce qu'est l'Église aujourd'hui et de la donner avec un exemplaire des articles de foi. Voici quatre sujets qui peuvent aider aujourd'hui une personne à se faire une idée de base de l'Église. Sous chacune des quatre rubriques, il y a des déclarations simples que j'ai trouvées utiles. Essayez d'imaginer qu'une personne qui ne sait pratiquement rien sur nous les entende ou les lise. Les quatre sujets principaux traitent des faits, de la foi, de la famille et des fruits de l'Évangile rétabli. Les faits pourraient être ceux-ci. Premièrement, Mormon est un surnom donné à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les membres sont souvent appelés Mormons ou Saints des Derniers Jours. Le terme saint signifie membre. Deuxièmement, l'Église a été rétablie en 1830 dans l'État de New York avec Joseph Smith comme premier prophète et président. Aujourd'hui, elle a son siège à Salt Lake City. Le prophète et président actuel est Gordon B. Hinckley. Troisièmement, il y a maintenant plus de 13 millions de membres dans 176 pays et territoires. Environ 6 millions de ceux-ci sont aux États-Unis, ce qui fait de nous la quatrième plus grande confession chrétienne d'Amérique. Étant l'une des confessions chrétiennes qui grandit le plus rapidement au monde, nous terminons la construction d'une nouvelle église chaque jour ouvrable. Les membres paient une dîme qui représente 10% de leurs revenus, ce qui rend possible ce programme et d'autres. Quatrièmement, les assemblées locales sont dirigées par des fidèles bénévoles non rémunérés, hommes et femmes, détiennent des postes de direction. Et cinquièmement, les Mormons sont bien représentés dans la politique et le gouvernement. Aux États-Unis, par exemple, il y a au Congrès 16 membres issus des deux partis politiques. On trouve aussi des membres dans des postes élevés, des postes de confiance dans le monde entier, au gouvernement, dans les affaires, la médecine, le droit, l'enseignement, les médias, les sports et le spectacle. Ensuite, les gens ont besoin de savoir quelque chose de notre foi de chrétiens engagés ayant des valeurs traditionnelles fortes. En plus des articles de foi, nous devons souligner que nous croyons en l'éternité de l'âme, que Dieu est le Père de notre esprit et que nous pouvons retourner auprès de lui après la mort. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur personnel et nous essayons de modeler notre vie sur la sienne et sur ses enseignements. Nous commémorons le sacrifice expiatoire du Christ dans nos services du culte du dimanche, de la même façon qu'on prend la communion dans d'autres églises. Nous acceptons comme frères chrétiens tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur de toute l'humanité. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que nous avons beaucoup de points communs avec eux. Joseph Smith a enseigné que Jésus-Christ est le centre de notre foi et que tout le reste en est une annexe. Le nom de l'Église est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous croyons que l'Église originelle que Jésus a créée a été perdue et qu'elle a été rétablie de nos jours. La prêtrise, l'autorité donnée aux hommes d'agir au nom de Dieu, avec des apôtres et un prophète pour nous diriger, a été rétablie de même que toutes les ordonnances nécessaires au salut. Nous croyons en cette Bible et nous l'utilisons comme l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous croyons au Livre de Mormon et à d'autres livres d'Écriture qui soutiennent et authentifient la Bible et témoignent du ministère et de la divinité du Christ et de la révélation continue de Dieu aux hommes. En effet, le Livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. La chose suivante qu'il est bon que les gens sachent, c'est à quel point notre théologie et notre mode de vie sont centrés sur la famille. Encore une fois, des déclarations simples sont utiles pour quelqu'un qui est non informé, mais curieux de l'importance que nous accordons à la famille. Les Mormons mettent particulièrement l'accent sur la famille comme cellule de base de l'Église et de la société. Nous tenons profondément au mariage, défini comme une union entre un seul homme et une seule femme. La polygamie, qui a été une pratique limitée dans les premiers temps pionniers de l'Église, a été abandonnée en 1890, il y a environ 117 ans. Les familles, qu'elles soient membres de notre religion ou pas, peuvent assister à l'office du dimanche dans nos églises. Nous y rendons le culte ensemble en nous instruisant les uns les autres à l'aide des Écritures. Les familles des Saints des Derniers Jours sont invités à tenir des soirées familiales hebdomadaires, habituellement le lundi soir. Cela donne aux parents un moment régulier et prévisible pour enseigner des valeurs à leurs enfants et pour s'amuser avec eux. Nous invitons les gens qui ne sont pas de notre religion à adopter cette habitude dans leur famille. L'Église a des programmes auxiliaires pour les femmes, les jeunes et les enfants à titre de soutien de la famille. Ces programmes assurent des choses telles que l'instruction religieuse, des occasions de service chrétien, des sports, du théâtre, de la musique et du scoutisme. Une grande attention est également accordée à la famille au sens large, à la généalogie et à l'histoire familiale personnelle, ce qui donne à jeunes et vieux une conscience plus forte de leurs racines, de leur identité et de leur appartenance. Les ordonnances les plus hautes et les plus sacrées de notre religion ont trait à notre famille, vivante et morte, et certaines de ces ordonnances ont lieu dans nos temples. Maintenant, même quand une personne commence à comprendre quelques faits sur nous et en vient à nous connaître avec plus de précision par notre foi et l'importance de la famille, comme le Sauveur l'a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une église ou n'importe quel mode de vie doit être jugée par les fruits ou les résultats qu'elle produit. Voici quelques exemples basés sur des statistiques des États-Unis. Ils seraient semblables dans le monde entier parmi les mormons pratiquants, par quoi nous entendons ceux qui vont régulièrement à l'église et au temple. L'un des fruits est une vie plus longue. Les études montrent que les mormons pratiquants sont en meilleure santé et vivent donc plus longtemps que la moyenne nationale. En 1833, le Seigneur a révélé à Joseph Smith la parole de sagesse, qui est la manière de vivre pour jouir d'une vie longue et saine. Deuxièmement, ceux qui sont mariés au temple et le fréquentent régulièrement ont un taux de divorce de loin inférieur à la moyenne nationale et mondiale. Troisièmement, nous atteignons un niveau d'études plus élevé que la moyenne nationale. Quatrièmement, plus de 70 000 membres se proposent pour œuvrer à leurs propres frais pendant 18 à 24 mois dans des causes humanitaires, des tâches pour les services de l'Église et le service missionnaire à plein temps dans le monde entier. Et cinquièmement, nous mettons fortement l'accent sur l'autonomie et une grande éthique du travail. Nous sommes pour la participation active à la vie de notre collectivité et au service d'autrui. L'Église continue à donner beaucoup d'argent, de biens et de services aux causes humanitaires de par le monde, notamment d'innombrables heures de travail offertes par les membres pour aider au déblayage des décombres et au secours lors des catastrophes. Mes frères et sœurs, j'ai constaté que, dans le monde affairé d'aujourd'hui, la plupart des gens ne lisent ou ne se concentrent que sur quelques faits importants à la fois. Quoi que vous choisissiez d'utiliser pour informer vos amis et connaissances sur l'Église, mettez-le par écrit, vérifiez-en l'exactitude et veillez à ce que cela reste simple et court. La visibilité croissante de l'Église et les questions de plus en plus nombreuses des autres nous donnent de grandes occasions de créer des liens, de nous faire des amis et de diffuser des renseignements exacts. Mais elle peut également présenter un plus grand risque de malentendus et parfois même de préjugés si nous laissons à d'autres le soin de définir qui nous sommes et ce que nous croyons au lieu de le présenter nous-mêmes. Généralement, il n'y a aucun problème pour ceux qui connaissent personnellement nos membres. Mais il y a des millions et des millions de personnes qui ne connaissent aucun membre de notre religion. Je voudrais que ceux qui savent très peu sur l'Église cherchent à en apprendre plus sur nous. Je voudrais qu'ils fassent connaissance de nos membres plutôt que de nous juger sur les renseignements faux donnés par des gens qui ne savent pas et dans certains cas par des gens qui s'emploient à tromper ou à diffamer. Vous, les membres, vous pouvez aider à ce que cela se produise en allant vers les autres et en leur fournissant les renseignements qui se trouvent dans les articles de foi, ainsi que des choses telles que les faits, la foi, la famille et les fruits de l'Évangile. Nous ne devons pas non plus oublier que parfois la meilleure manière de répondre à l'intérêt des personnes peut être notre façon de vivre, le rayonnement de la joie de l'Évangile dans notre vie, notre façon de traiter les autres et la sincérité avec laquelle nous suivons les enseignements du Christ. Pour ceux qui veulent en apprendre plus que les quelques renseignements de base dont j'ai parlé, les missionnaires peuvent être invités à leur enseigner la doctrine contenue au chapitre 3 de Prêcher mon évangile. Les missionnaires savent comment répondre à leurs autres questions et les amener à la conversion et au baptême. Le moment est venu où nous devons tous aller vers les autres et leur dire qui nous sommes. Préparez quelques faits simples comme ceux que je vous ai mentionnés aujourd'hui et aidez les gens qui sont curieux à en savoir un peu sur l'Église et ensuite à vouloir en savoir plus sur leur établissement de l'Évangile. Mes frères et sœurs, n'hésitez jamais à rendre témoignage avec sincérité et amour. Le pouvoir du témoignage personnel ne peut être nié, et souvent, il éveille chez les autres le désir d'en savoir davantage. Je sais que c'est vrai, et vous rends mon témoignage catégorique que je sais que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est vraie. Et je vous rends témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes
frères et sœurs, je voudrais poser une question très importante. Quelle qualité nous définit le mieux, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours? Aujourd'hui, je voudrais parler de la réponse à cette question. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les membres de l'Église qui grandissaient à Corinthe étaient enthousiastes à propos de l'Évangile. Presque tous étaient des convertis récents. Beaucoup y étaient attirés par la prédication de l'apôtre Paul et d'autres. Mais les saints de Corinthe étaient également querelleurs. Ils se disputaient entre eux. Certains se sentaient supérieurs aux autres. Ils se traînaient mutuellement devant les tribunaux. Quand Paul l'a appris, il leur a écrit, contrarié, une lettre où il les suppliait de devenir plus unis. Il répond aux questions qui avaient fait l'objet de différends. Puis, vers la fin, il leur dit qu'il veut leur montrer une voie par excellence. Vous rappelez-vous ce qu'il écrit ensuite? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, leur dit-il, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Le message de Paul à ce nouveau groupe de saints est simple et direct. Rien de ce que vous faites ne servira à grand-chose si vous n'avez pas la charité. Vous pouvez parler en langue, avoir le don de prophétie, comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Auriez-vous même la foi pour déplacer des montagnes sans la charité? Cela ne vous profitera en rien. La charité est l'amour pur du Christ. Le Sauveur a donné l'exemple de cet amour et l'a enseigné même pendant qu'il était tourmenté par ceux qui le méprisaient et le haïssaient. Un jour, les pharisiens ont essayé de le piéger en lui posant une question apparemment impossible. Maître, ont-ils demandé, quel est le plus grand commandement de la loi? Les pharisiens avaient débattu en long et en large de cette question et avaient défini plus de 600 commandements. Ils pensaient certainement que si la détermination de leur niveau de priorité était une tâche si difficile pour les savants, la question serait impossible pour ce fils de charpentier de Galilée. Et quand ils ont entendu sa réponse, ils ont dû être décontenancés, car elle mettait le doigt sur leur grande faiblesse. Il a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Depuis ce jour, cette déclaration inspirée a été répété au cours de nombreuses générations. Maintenant, pour nous, la mesure de notre amour est la mesure de la grandeur de notre âme. Les Écritures nous disent que si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Quelle promesse merveilleuse! C'est exaltant de penser que le Créateur du ciel et de la terre puisse nous connaître et nous aimer d'un amour pur et éternel. En 1840, Joseph le prophète a envoyé une épître aux 12 où il enseignait « L'amour est une des principales caractéristiques de la divinité et ceux qui aspirent à être les fils de Dieu devraient le manifester. » Un homme rempli de l'amour de Dieu ne se contente pas de faire du bien à sa famille seulement, mais parcourt le monde entier, vivement désireux de faire du bien à tout le genre humain. Quand nous montrons notre amour aux gens qui nous entourent, nous accomplissons l'autre moitié du grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux commandements sont nécessaires, car lorsque nous portons les fardeaux les uns des autres, nous accomplissons la loi du Christ. L'amour est le commencement, le milieu et l'aboutissement du chemin que doit suivre le disciple. Il réconforte, conseille, guérit et console. Il nous fait traverser les vallées de ténèbres et le voile de la mort. En fin de compte, l'amour nous mène à la gloire et à la splendeur de la vie éternelle. Pour moi, Joseph Smith, le prophète, a toujours donné l'exemple de l'amour pur du Christ. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi il s'était fait autant de disciples et les avait conservés. Il a répondu, c'est parce que je possède le principe de l'amour. Il y a l'histoire d'un garçon de 14 ans qui était venu à Nauvoo à la recherche de son frère qui vivait près de là. Le jeune garçon était arrivé en hiver sans argent ni amis. Quand il s'est enquis de son frère, le garçon a été conduit dans une grande maison qui ressemblait à un hôtel. Là, il a rencontré un homme qui lui a dit, « Entre, mon garçon, nous allons prendre soin de toi. » Le garçon a accepté et a été emmené dans la maison où il était nourri et chauffé, et on lui a donné un lit. Le lendemain, il gelait à pierre fendre, mais malgré cela, le garçon s'est préparé à faire à pied les 13 kilomètres jusqu'à l'endroit où son frère logeait. Quand il a vu cela, le maître de maison a dit au jeune garçon de rester un peu. Il a dit qu'un chariot allait bientôt arriver et qu'il pourrait retourner avec lui. Quand le garçon a protesté en disant qu'il n'avait pas d'argent, l'homme lui a dit de ne pas s'en faire pour cela, que l'on prendrait soin de lui. Plus tard, le garçon a appris que le maître de maison n'était autre que Joseph Smith, le prophète mormon. Ce garçon s'est rappelé cet acte de charité tout le reste de sa vie. Dans un message récent de l'émission Music and the Spoken Word, du cœur du tabernacle mormon, il est question d'un vieux couple marié pendant des dizaines d'années. Comme elle perdait peu à peu la vue, la femme ne pouvait plus se soigner comme elle l'avait fait pendant tant d'années. Sans qu'elle le lui demande, le mari a commencé à lui teindre les ongles pour elle. Il savait qu'elle pouvait voir ses ongles quand elle les tenait près de ses yeux, juste au bon angle, et il la faisait sourire. Comme il aimait la voir heureuse, il a continué à lui faire les ongles pendant plus de 5 ans, jusqu'à son décès. C'est un exemple de l'amour pur du Christ. Ce n'est pas toujours dans les tableaux spectaculaires que les poètes et les écrivains immortalisent que l'on trouve le plus grand amour. Les plus grandes manifestations d'amour sont souvent les actes simples de bonté et de sollicitude que nous faisons pour les personnes que nous rencontrons le long du chemin de la vie. L'amour vrai dure à jamais. Il est éternellement patient et indulgent. Il croit, espère et supporte tout. C'est l'amour que notre Père Céleste nous porte. Nous aspirons tous à éprouver un amour comme celui-là. Même lorsque nous commettons des fautes, nous espérons que les autres nous aimeront malgré nos imperfections, même si nous ne le méritons pas. Ah, il est merveilleux de savoir que notre Père Céleste nous aime, même avec tous nos défauts. Son amour est tel que, même si nous baissons les bras, lui ne renonce jamais. Nous nous voyons en termes d'hier et d'aujourd'hui. Notre Père Céleste nous voit en termes d'éternité. Alors que nous pourrions nous contenter de moins, notre Père Céleste ne le fera jamais, car il voit en nous les êtres glorieux que nous sommes capables de devenir. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de transformation. Il nous prend hommes et femmes de la terre et nous raffine pour faire de nous des hommes et des femmes pour l'éternité. L'instrument de ce raffinement est notre amour chrétien. Il n'est pas de douleur qui ne puisse apaiser, d'amertume qui ne puisse enlever, de haine qui ne puisse changer. Sophocle, le dramaturge grec, a écrit « Un mot nous libère de tout le poids et de toute la douleur de la vie. Ce mot, c'est l'amour. Les moments les plus précieux et les plus sacrés de notre vie sont ceux qui sont remplis de l'esprit d'amour. Plus la mesure de notre amour est grande, plus notre joie est grande. En fin de compte, l'acquisition de ce genre d'amour est la vraie mesure du succès dans la vie. Aimez-vous le Seigneur? Passez du temps avec lui. Méditez sur ses paroles. Prenez son joug sur vous. Cherchez à comprendre et à obéir, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Que nous aimons le Seigneur, l'obéissance cesse d'être un fardeau. L'obéissance devient un plaisir. Quand nous aimons le Seigneur, nous cherchons moins les choses qui nous profitent et nous tournons notre cœur vers les choses qui vont faire du bien aux autres et vont les édifier. Quand notre amour pour le Seigneur s'approfondit, notre esprit, notre cœur se purifie. Nous éprouvons un grand changement dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Mes frères et sœurs, en réfléchissant dans la prière à ce que vous pouvez faire pour augmenter l'entente et la spiritualité, édifier le royaume de Dieu, pensez à votre devoir sacré d'enseigner aux autres, à aimer le Seigneur et leurs semblables. C'est le but essentiel de notre existence. Sans la charité, qui est l'amour pur du Christ, tout ce que nous pouvons accomplir a peu d'importance. Avec lui, tout le reste palpite et prend vie. Quand nous inspirons les autres et leur enseignons à remplir leur cœur d'amour, l'obéissance découle de l'intérieur dans des actes délibérés de dévouement et de service. Oui, ceux qui font l'enseignement au foyer par devoir, par exemple, peuvent faire leur devoir, mais ceux qui font l'enseignement au foyer par amour véritable pour le Seigneur et pour leurs semblables abordent vraisemblablement cette tâche avec une attitude très différente. Je reviens à ma question de départ. Quelle qualité nous définit le mieux, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Je répondrai, nous sommes des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit, et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. C'est notre signature en tant que peuple. C'est une balise pour le monde, signalant de qui nous sommes disciples. Au jour final, le Sauveur ne posera pas de questions sur la nature de nos appels et ne nous interrogera pas sur nos biens matériels ou sur notre célébrité. Il demandera si nous avons soigné les malades, donné à manger à ceux qui avaient faim et soif, visité ceux qui étaient en prison ou secouru les faibles. Quand nous tendons la main pour aider les plus petits des enfants de notre Père Céleste, c'est à lui que nous le faisons. Telle est l'essence de l'Évangile de Jésus-Christ. Si nous souhaitons vraiment apprendre comment aimer, tout ce que nous avons à faire, c'est réfléchir à la vie de notre Sauveur. Quand nous prenons les emblèmes de la Sainte Cène, cela nous rappelle le plus grand exemple d'amour de l'histoire du monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour du Sauveur pour nous était si grand qu'il l'a fait trembler de douleur. Lui, Dieu, le plus grand de tous. Elles l'ont fait saigner à chaque pore. Parce que le Sauveur a donné sa vie pour nous, nous avons l'espérance lumineuse, l'assurance et la certitude que, quand nous quitterons cette existence terrestre, nous vivrons de nouveau avec lui. Par l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons être purifiés du péché et avoir part au don de notre Père Tout-Puissant. Alors nous connaîtrons la gloire que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. C'est là le pouvoir de transformation de la charité. Quand il a donné à ses disciples le commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », Jésus leur a donné la grande clé du bonheur dans cette vie et de la gloire dans l'autre. L'amour est le plus grand de tous les commandements. Tous les autres en dépendent. C'est notre objectif de disciple du Christ vivant. C'est le trait de caractère par excellence, qui, si nous l'acquérons, améliorera le plus notre vie. Je rends témoignage que Dieu vit. Son amour est infini et éternel. Il est accordé à tous ses enfants parce qu'il nous aime et nous a donné des prophètes et des apôtres pour nous guider. Il nous a donné le Saint-Esprit qui enseigne, console et inspire. Il nous a donné des Écritures. Je suis reconnaissant de la toute description de ce qu'il a donné à chacun de nous un cœur capable de ressentir l'amour pur du Christ. Je prie pour que notre cœur soit rempli de cet amour et que nous nous ouvrions à notre Père Céleste et aux autres avec une vision nouvelle et une foi nouvelle. Je témoigne que, ce faisant, nous découvrirons une plus grande richesse dans la vie Au nom du sacré de Jésus-Christ. Amen. Merci.
How I love Elder Joseph Worthlin.
J'aime beaucoup Joseph Worthlin. Rudyard Kipling, le poète, a écrit les paroles suivantes en 1899 en avertissement à l'Empire britannique contre l'orgueil. Le tumulte et les cris meurent. Capitaines et rois sont partis. Seul demeure ton sacrifice ancien, celui d'un cœur humble et contrit. Lorsque Kipling a parlé d'un cœur contrit comme d'un sacrifice ancien, peut-être avait-il à l'esprit les paroles du roi David dans le psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, un cœur brisé et contrit. Les paroles de David montrent que déjà à l'époque de l'Ancien Testament, le peuple du Seigneur comprenait qu'il devait donner son cœur à Dieu, que les holocaustes seuls n'étaient pas suffisants. Les sacrifices exigés pendant la dispensation de Moïse préfiguraient symboliquement le sacrifice expiatoire du Messie, qui seul pouvait réconcilier l'homme pécheur avec Dieu. Comme Amulek l'a enseigné, voici, c'est là toute la signification de la loi, tout jusqu'au moindre détail, annonçant ce grand et dernier sacrifice, le Fils de Dieu. Après sa résurrection, Jésus-Christ a déclaré au peuple du Nouveau Monde, « Vos sacrifices et vos holocaustes cesseront, car je n'en accepterai aucun. » Et vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Et quiconque vient à moi le cœur brisé, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. Que signifie avoir le cœur brisé et l'esprit contrit? Et pourquoi est-ce considéré comme un sacrifice? Comme pour tout, la vie du Sauveur nous donne l'exemple parfait. Jésus de Nazareth, bien qu'exempt de tout péché, a vécu le cœur brisé et l'esprit contrit, comme en témoigne sa soumission à la volonté du Père. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a dit à ses disciples, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et lorsque le moment est venu d'accomplir le sacrifice suprême que comportait l'expiation, le Christ ne s'est pas refusé à boire la coupe amère, mais il s'est soumis entièrement à la volonté de son Père. La soumission parfaite du Sauveur au Père éternel est l'essence même d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. L'exemple du Christ nous enseigne qu'avoir le cœur brisé est une qualité divine éternelle. Quand notre cœur est brisé, nous sommes totalement ouverts à l'Esprit de Dieu et dépendons complètement de Lui dans tout ce que nous avons et ce que nous sommes. Le sacrifice que cela implique est le renoncement à l'orgueil sous toutes ses formes. Comme l'argile malléable dans les mains d'un habile potier, celui qui a le cœur brisé peut être modelé et façonné dans les mains du Maître. Le cœur brisé et l'esprit contrit sont aussi des conditions préalables au repentir. Lehi a enseigné, « C'est pourquoi la rédemption vient dans et par l'intermédiaire du Saint Messie. Voici, il s'offre en sacrifice pour le péché, pour satisfaire aux exigences de la loi, pour tous ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit. Et il ne peut être satisfait aux exigences de la loi pour personne d'autre. Lorsque nous péchons et désirons le pardon, avoir le cœur brisé et l'esprit contrit signifie éprouver la tristesse selon Dieu qui produit le repentir. Cela se produit lorsque notre cœur brûle tellement du désir d'être purifié du péché que nous éprouvons un chagrin intense et que nous aspirons à nous sentir en paix avec notre Père céleste. Les personnes qui ont le cœur brisé et l'esprit contrit sont prêtes à faire tout ce que Dieu leur demande, sans résistance ni ressentiment. Nous arrêtons d'agir à notre manière et apprenons à agir à la manière de Dieu. Dans cet état de soumission, l'expiation peut opérer et le vrai repentir se produire. Les pénitents connaîtront alors le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit qui les remplira de la paix de la conscience et de la joie de la réconciliation avec Dieu. Dans une union merveilleuse de qualité divine, ce même Dieu qui nous enseigne d'avoir le cœur brisé nous invite à nous réjouir et à prendre courage. Une fois que nous avons reçu le pardon de nos péchés, le cœur brisé sert de bouclier divin contre la tentation. Néphi a adressé cette prière. « Puissent les portes de l'enfer être continuellement fermées devant moi, parce que mon cœur est brisé et que mon esprit est contrit. » Le roi Benjamin a enseigné à son peuple que s'il marchait dans les profondeurs de l'humilité, il se réjouirait toujours et serait rempli de l'amour de Dieu et conserverait toujours le pardon de ses péchés. Quand nous remettons notre cœur au Seigneur, les attraits du monde perdent de leur éclat. Il y a une autre dimension du cœur brisé, et c'est notre gratitude profonde pour les souffrances du Christ en notre faveur. À Gethsémané, le Sauveur est descendu au-dessous de tout, car il a porté le fardeau du péché de chaque être humain. Au Golgotha, il s'est livré lui-même à la mort. Et son grand cœur s'est brisé d'amour universel pour les enfants de Dieu. Si nous nous rappelons le Sauveur et ses souffrances, notre cœur se brisera aussi de gratitude pour loin. Si nous lui sacrifions tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, le Seigneur remplira notre cœur de paix. Il guérira ceux qui ont le cœur brisé et nous offrira l'amour de Dieu qui est doux par-dessus tout ce qui est doux et pur par-dessus tout ce qui est pur. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Il y a peu de temps, nous avons invité deux sœurs missionnaires à manger. Après avoir fini le repas, nous leur avons demandé de nous donner une pensée spirituelle. Bien préparées, elles nous ont présenté un exercice de lecture et de marquage des Écritures. Elles avaient apporté un exemplaire neuf du Livre de Mormon et une trousse de crayons de couleur. Nous avons accepté l'invitation des missionnaires. Depuis, notre lecture du Livre de Mormon en famille a changé. À chaque chapitre, nous marquons avec des couleurs différentes les passages qui se rapportent à Jésus-Christ quand nous en trouvons. Chaque fois, ce petit exercice nous rappelle nos missionnaires. Quand les missionnaires ont présenté cela, nous avons immédiatement reconnu un exercice de lecture des Écritures suggéré dans Prêcher mon Évangile. Notre famille est très reconnaissante pour ce remarquable outil missionnaire. Depuis 3 ans, les missionnaires utilisent Prêcher mon Évangile dans le monde entier. Ce guide a littéralement révolutionné l'œuvre missionnaire. La grande vision du président Inglis accomplie. Les missionnaires assimilent les concepts des leçons. Ils enseignent ces notions dans leurs propres termes sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. En se plongeant dans Prêcher mon Évangile, ils apprennent et appliquent des points de doctrine et des principes importants qui les rendront plus compétents dans leur service important. Malgré cela, ils ont encore grand besoin de notre aide et de notre soutien. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons nous acquitter de la grande responsabilité donnée aux apôtres anciens et modernes. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pour réussir dans ces efforts, nous devons être unis avec les missionnaires et nous devons nous comprendre mutuellement. Comprenez-vous toujours les missionnaires? Je ne parle pas de leur manière de parler la langue, mais de celle d'accomplir l'œuvre missionnaire. Nous les voyons et les observons quand ils invitent des gens à écouter leur message. Ils enseignent des principes de l'Évangile et invitent les gens qui sont intéressés à changer leur vie, à se faire baptiser, à confirmer et à devenir membres de l'Église. Si nous voulons comprendre et aider nos missionnaires, nous devons avoir la foi comme les missionnaires. Nous devons penser comme les missionnaires et nous devons sentir les choses comme les missionnaires. Comment pouvons-nous y arriver? Un moyen important est bien sûr d'être avec eux et de les voir faire. Mais un autre moyen consiste à bien connaître Prêcher mon Évangile et à s'informer davantage de l'œuvre missionnaire. Depuis que le président Mackay a dit « Chaque membre est un missionnaire », les membres s'efforcent de prêcher l'Évangile de manière plus active. Avec Prêcher mon Évangile, nous avons un guide merveilleux pour nous aider à mieux comprendre, répondre à cette invitation. Notre étude de Prêcher mon Évangile ne nous aidera pas seulement à mieux comprendre et apprécier nos missionnaires, mais nous aidera dans notre vie quotidienne. Chaque membre de notre famille possède un exemplaire de Prêcher mon Évangile. L'étude de ce guide aide beaucoup à acquérir un témoignage fort. Elle aide à comprendre les principes fondamentaux de l'Évangile et à avoir le désir de servir. Pendant quelques instants, je vais souligner certains titres de Prêcher mon Évangile et vous comprendrez. Les voici. Comment reconnaître et comprendre l'Esprit? Comment étudier efficacement et me préparer à enseigner? Qu'est-ce que je dois étudier et enseigner? Quel est le rôle du Livre de Mormon? Comment acquérir des vertus chrétiennes? Ne sont-ce pas là les choses que nous voulons tous apprendre? Pour quiconque veut devenir un meilleur membre missionnaire et savoir comment soutenir les missionnaires, prêcher mon Évangile est plein de bonnes idées. Nous apprenons à aider les missionnaires à trouver des personnes à instruire et à travailler, et nous, membres, main dans la main avec les missionnaires afin d'aider les gens qui étudient l'Église. Nous apprenons à comprendre pourquoi les fortes incitations à l'action aident à développer la foi en Jésus-Christ et que nous pouvons accompagner nos amis non-membres qui passent par le merveilleux processus de la conversion qui change leur vie. Chaque jour, les missionnaires accompagnent leur étude des Écritures de celle de Prêcher mon Évangile. Ils apprennent les principes et des techniques et les appliquent. Ils apprennent surtout à utiliser la direction du Saint-Esprit dans leur travail. Si nous voulons apprendre comme les missionnaires, nous devons, nous aussi, étudier Prêcher mon Évangile et observer les missionnaires dans leur travail quotidien. Dans l'introduction de Prêcher mon Évangile, nous lisons « Prêcher mon Évangile est destiné aux missionnaires à plein temps de l'Église. Cependant, les principes et les points de doctrine enseignés ci-dessus sont également applicables aux missionnaires et aux dirigeants de missions de paroisse dans leurs efforts pour édifier le royaume du Seigneur. L'étude fréquente de ce manuel leur permettra de s'acquitter de leurs responsabilités de membres missionnaires et favorisera l'unité avec les missionnaires à plein temps. » Richard J. Scott a enseigné que tous les membres doivent étudier attentivement Prêcher mon évangile. Il a dit, « Beaucoup de bien a été accompli depuis le lancement de Prêcher mon évangile, mais le meilleur est encore à venir, à mesure que nous saurons mieux utiliser cet extraordinaire outil missionnaire. » Nous pouvons penser ne pas avoir assez de temps pour cette étude. Je vais donc donner quelques idées qui peuvent être utiles. Les jeunes qui se préparent à partir en mission doivent étudier attentivement Prêcher mon évangile avec les Écritures. Invitez les missionnaires chez vous. Demandez-leur de vous apprendre, à vous et à votre famille, un principe ou un point de doctrine tiré de Prêcher mon évangile. De temps en temps, servez-vous de Prêcher mon évangile pour la soirée familiale. Demandez à vos enfants adolescents d'instruire votre famille comme les missionnaires. Chez nous, nous avons été surpris par la qualité de leçons données par nos enfants. Nous avons été étonnés de leur bonne façon d'enseigner des principes simples tirés de Prêcher mon évangile. Nous avons parfois invité des amis à ces leçons. Les instructeurs de l'évangile pourraient utiliser des principes simples et efficaces de l'enseignement de l'évangile présenté dans Prêcher mon évangile à l'appui des cours prescrits. Prêcher mon évangile a été traduit et publié dans presque toutes les langues parlées par nos membres. Dans les pays où l'Église n'est pas établie depuis longtemps, on peut utiliser Prêcher mon évangile avec les Écritures comme documentation et comme base pour l'étude de tous les enseignements de l'Évangile. Frère Scott a encouragé les dirigeants locaux de l'Église à utiliser cette documentation dans les présidences, dans les réunions de comités exécutifs de la prêtrise et dans les conseils de paroisse. Utilisez Prêcher mon évangile comme aide pour la formation, pour les discours, pour les pensées spirituelles, pour les leçons, pour les veillées et pour l'étude personnelle. Je témoigne que ce guide missionnaire est inspiré de Dieu. Nous devons l'étudier plus attentivement pour pouvoir mieux comprendre nos missionnaires et leur travail. Les membres et eux doivent parler le même langage. Nous devons devenir unis dans nos efforts pour prêcher l'évangile. Cela nous aidera davantage à devenir des outils dans les mains du Seigneur, car il a dit, « Et de même, je rassemblerai mes élus des quatre coins de la terre, et tous ceux qui croiront en moi écouteront ma voix. » Il est attendu de nous, membres de son Église, de faire partie de ce glorieux rassemblement. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le
chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Venez, venez sans craindre le devoir ». Ensuite, Michael J. Tay et Keith Hilbig, des 70, nous adresseront la parole. Après leur discours, nous entendrons Jeffrey R. Holland, du Collège des 12 apôtres.
This is the 177th semi-annual General Conference.
Vous assistez à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
Aloha des gens merveilleux des Philippines. L'une des questions les plus anciennes et les plus profondes posée au cours de l'histoire de la Terre a été, et c'est très intéressant, posée par Caïn en réponse à la demande de Dieu, peu après le meurtre d'Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Cette question mérite que les gens qui veulent accomplir la volonté du Seigneur y réfléchissent sérieusement. L'une des réponses se trouve dans l'enseignement suivant d'Alma. Et maintenant, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, et être disposé à porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, oui, et être disposé à pleurer avec ceux qui pleurent, oui, et à consoler ceux qui ont besoin de consolation. En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de prendre soin de nos frères et sœurs et de les servir. En racontant la parabole du bon Samaritain, Jésus-Christ a non seulement confondu ses ennemis, mais il a aussi enseigné une grande leçon à toutes les personnes qui cherchaient à le suivre. Nous devons élargir le cercle de notre influence. Les services que nous rendons ne doivent pas tenir compte de la race, de la couleur, du rang social ou des relations. Après tout, le commandement va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermit les genoux qui chancellent, n'était pas accompagné de restrictions. Beaucoup de gens croient que pour qu'un service soit efficace, il doit suivre des plans élaborés et nécessite un comité. Beaucoup de ces projets louables sont utiles, mais une grande partie du service nécessaire dans le monde d'aujourd'hui concerne nos relations quotidiennes avec les gens. Nous trouvons souvent ces occasions dans les limites de notre foyer, de notre quartier et de notre paroisse. Le conseil suivant, donné par le trompeur Screwtape à son neveu Wormwood dans Tactique du diable de C.S. Lewis, décrit une maladie courante touchant beaucoup de nous aujourd'hui. Citation. Tu peux faire ce que tu veux, il y aura toujours un mélange de bienveillance et de malveillance dans l'âme de ton protégé. L'essentiel est de diriger toute sa malveillance contre ses voisins les plus proches, ceux qu'il rencontre chaque jour, et de l'amener à montrer de la bienveillance aux gens qui vivent à l'autre bout du monde et qu'il ne connaît guère. Sa malveillance en sera d'autant plus réelle, et sa bienveillance d'autant plus illusoire. Fin de citation. Des paroles d'un cantique bien connu prescrivent le remède parfait. Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain? Ai-je rendu joyeux un ami malheureux? Sinon, j'ai vécu en vain. Ne rêve plus, éveille-toi, pour gagner ta couronne en haut. Le devoir est le bonheur si l'amour dans nos cœurs nous rapproche du ciel là-haut. Voici des événements dont j'ai eu la bénédiction d'être témoin et qui m'ont appris comment des actes simples de service peuvent nous aider, nous et ceux qui nous aient permis d'influencer. Notre Père Céleste met des personnes aimantes à des croisées de chemin importantes de notre vie pour nous aider afin que nous ne soyons pas laissés à tâtonner dans l'obscurité. Ces hommes et ces femmes aident par leur exemple, leur patience et leur amour. C'est ce que j'ai pu constater. Je me souviens d'une croisée de chemin particulièrement importante, la décision de faire une mission à plein temps. Je suis resté très, très longtemps à cette croisée de chemin. Alors que j'avais du mal à décider de la route à prendre, ma famille, mes amis et mes dirigeants de la prêtrise sont venus me prendre par la main. Ils m'ont encouragé, poussé et ont fait d'innombrables prières pour moi. Ma sœur, qui était en mission à plein temps, m'a écrit régulièrement et n'a jamais abandonné. Aujourd'hui encore, je suis porté sur les épaules de femmes et d'hommes bons. Je présume que nous le sommes tous. À un degré ou à un autre, nous dépendons tous les uns des autres pour réussir à retourner dans notre foyer céleste. Faire connaître l'Évangile est l'une des manières les plus enrichissantes de rendre service aux gens qui ne sont pas de notre religion. Je me souviens d'une expérience de mon enfance, alors que, avec quelqu'un que j'appellerais simplement l'oncle Fred. Quand j'avais 6 ans, l'oncle Fred était mon pire cauchemar. C'était notre voisin et il était toujours saoul. L'un de ses passe-temps préférés était de lancer des cailloux sur notre maison. Comme ma mère était très bonne cuisinière, les adultes seuls de notre petite branche venaient souvent chez nous. Un jour, que l'oncle Fred était sobre, ses membres ont parlé avec lui et l'ont invité à venir chez nous. J'en étais terrifié. Il n'était plus à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur. Cela est arrivé plusieurs fois, plusieurs autres fois, jusqu'au jour où ils ont réussi à le convaincre d'écouter les missionnaires. Il a accepté l'Évangile et s'est fait baptiser. Il a fait une mission à plein temps, a été relevé honorablement, il a fait des études et s'est marié au temple. Il est maintenant un mari, un père et un dirigeant de la prêtrise juste. Voyant l'oncle Fred aujourd'hui, on aurait du mal à croire qu'il ait pu être un jour le cauchemar d'un garçon de 6 ans. Puissions-nous toujours reconnaître les occasions de faire connaître l'Évangile. Ma mère était un grand exemple pour ce qui est d'aider les gens en leur donnant un coup de pouce. Elle nous a enseigné de nombreuses leçons importantes. Celle qui a eu l'effet le plus durable sur moi était son désir d'aider tous les gens dans le besoin qui venaient chez nous. Cela m'ennuyait de voir beaucoup d'entre eux partir avec notre nourriture, nos vêtements et même notre argent. Comme j'étais jeune et que nous étions pauvres, cela ne me plaisait pas. Comment pouvait-elle donner alors que notre famille n'avait même pas assez? Était-ce mal de s'occuper d'abord de nos besoins? Ne méritions-nous pas une vie plus confortable? Pendant des années, ces questions m'ont poursuivi. Beaucoup plus tard, j'ai finalement compris ce que ma mère enseignait. Même en proie aux effets d'une maladie invalidante, elle ne pouvait pas s'arrêter de donner aux gens dans le besoin. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Il n'est pas nécessaire de participer à des événements spectaculaires pour rendre service. C'est souvent le simple acte quotidien qui apporte la consolation, le soutien, l'encouragement et qui rend le sourire aux gens. Ma prière est que nous puissions toujours trouver des occasions de rendre service. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dans 1 Thessaloniciens 5, Paul a exhorté les membres à se comporter comme il convient à des saints. Il a poursuivi en donnant une liste de qualités et de bons comportements. Au verset 19, il a conseillé en quelques mots simples. N'éteignez pas l'esprit. Chose intéressante, 500 ans avant les écrits de Paul, Jacob, prophète du livre de Mormon, cherchait à enseigner l'évangile de Jésus-Christ à des gens rebelles. Il leur a demandé hardiment ce qui suit. Rejetterez-vous les paroles des prophètes et nierez-vous la bonne parole du Christ et le don du Saint-Esprit et éteindrez-vous l'Esprit Saint? À notre époque, tant de siècles après Jacob et Paul, nous devons, nous aussi, veiller à ne pas contrarier, négliger ou éteindre l'esprit dans nos vies. Les invitations du monde visent à détourner notre attention du chemin étroit et resserré. L'adversaire travaille dur à émousser notre sensibilité au murmure de l'esprit. Que nous soyons adolescents, jeunes adultes, ou hommes ou femmes mûres, le rôle de l'Esprit, du Saint-Esprit, est essentiel dans chaque période de notre existence terrestre. Depuis le commencement, le Père a promis à chacun de ses fils et filles d'Esprit que par l'intermédiaire du sacrifice expiatoire et de la résurrection de son Fils bien-aimé, nous pourrions tous retourner en sa présence et hériter des bénédictions de la vie éternelle dans le plus haut degré du royaume céleste. Nous savions tous que le chemin de l'exaltation serait long, ardu et parfois solitaire, mais nous savions également que nous ne voyagerions pas seuls. Notre Père céleste donne à toutes les personnes qui remplissent les conditions préalables que sont la foi, le repentir et le baptême, un compagnon et un guide, le Saint-Esprit. Le chemin qui mène à la vie éternelle ne se trouve pas sur un plateau. Il est pentu et monte constamment, d'où la nécessité d'avoir une compréhension spirituelle et une énergie toujours grandissante pour arriver à destination. Étant donné que l'opposition pernicieuse de Satan perdure, la direction éclairée et continue du Saint-Esprit est absolument indispensable. Nous n'osons pas interrompre, négliger ou étouffer les murmures du Saint-Esprit. Cependant, nous sommes souvent loin de tirer tout le profit des murmures et des bénédictions du Saint-Esprit auxquelles nous avons droit. Dans la perle de grand prix, Moïse rapporte qu'Adam, ayant été baptisé et ayant reçu le Saint-Esprit, fut vivifié dans l'homme intérieur. Lorsque nous invitons le Saint-Esprit à remplir notre esprit de lumière et de connaissance, il nous vivifie, en d'autres termes, il éclaire et éveille l'être intérieur. Nous remarquons alors une différence sensible en notre âme. Nous nous sentons fortifiés, nous sommes remplis de paix et de joie. Nous avons de l'énergie et de l'enthousiasme spirituel qui accroissent nos capacités naturelles. Nous pouvons accomplir davantage que nous ne le pourrions seuls. Nous aspirons à devenir plus saints. Souhaitez-vous connaître le prix à payer pour avoir les droits qui nous sont proposés après la réception du Saint-Esprit? Le prix n'est pas prédéterminé ou fixe, mais c'est à chacun de nous de le déterminer. Si vous fixez votre paiement, vos efforts personnels, très bas, vous ne pourrez peut-être pas profiter de tout ce que l'Esprit a à offrir. Vous risquez même d'éteindre l'Esprit. Si par contre vous vous fixez une contribution personnelle élevée, vous aurez une abondante moisson de l'Esprit. Le paiement auquel je fais allusion n'est pas une question d'argent, mais d'engagement et d'investissement plus grand dans vos efforts et dans votre conduite spirituelle. Nous déterminons le niveau de notre contribution par l'examen de nos choix et de nos priorités actuelles en fonction de questions telles que est-ce que je passe plus de temps à faire du sport qu'à aller à l'église ou qu'à remplir mon appel? Si j'ai un jour de libre, vais-je au temple ou au centre commercial? Est-ce que je m'adonne aux jeux informatiques ou à la navigation sur Internet ou au lieu de rendre un service de valeur aux personnes de mon foyer et de ma collectivité? Est-ce que je lis le journal religieusement, mais de la difficulté à lire les Écritures chaque jour? Quel que soit notre niveau de développement spirituel actuel, il existe toujours un niveau plus élevé à notre portée. Le temps est une richesse des plus précieuses. Envisageriez-vous d'investir davantage de temps dans ce qui a trait à l'éternité afin de mériter la compagnie constante du Saint-Esprit et de profiter pleinement de son influence? Si votre réponse est oui, le premier sacrifice dans la quête d'une spiritualité plus profonde est d'avoir le désir accru de recevoir une plus grande inspiration pour devenir plus saint. Lorsque ce désir remplira notre cœur, nous augmenterons avec empressement le prix que nous payons pour avoir l'aide des cieux. La contribution suivante à cet effort consistera à nous plonger plus souvent dans les paroles du Christ et des prophètes. Lorsque nous ferons plus d'efforts pour étudier, nous ressentirons davantage l'influence puissante du Saint-Esprit. Sondons les Écritures, stylo en main, en prenant note des idées nouvelles et des murmures de l'Esprit. Par la suite, efforçons-nous d'appliquer à notre vie personnelle ce que nous avons appris. L'Esprit vivifiera notre être intérieur, nous obtiendrons une compréhension nouvelle, précepte sur précepte. Pour nous assurer de ne pas éteindre l'esprit, mais au contraire de favoriser sa présence, il y a une autre mesure à prendre. Prions fréquemment et avec ferveur. La promesse affectueuse et détaillée du Sauveur est rapportée dans Doctrine et Alliance. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Cherchez-moi avec diligence et vous me trouverez. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui vous est utile, vous sera donné. Remarquez l'ordre. Nous nous rapprochons du Sauveur lorsque nous observons rigoureusement ses commandements. Nous implorons avec ferveur le Père au nom du Christ. Ensuite, par les murmures du Saint-Esprit, nous recevons une direction divine et une compréhension claire. Lorsque nous jeûnons, que nous renouvelons nos alliances à la Sainte Cène et que nous allons au Temple, nous accédons davantage à l'Esprit. Dans ces circonstances, le Saint-Esprit peut manifester son influence par une grande force. Le Temple est un cadre merveilleux pour rechercher la révélation personnelle. Lorsque nous y allons aussi souvent que nous le pouvons et que nous écoutons en réfléchissant, nous en repartons avec une compréhension accrue du plan qu'a notre Père Céleste pour nous. Le Saint-Esprit élargit notre vision et permet à cette perspective d'éternel d'influencer nos décisions quotidiennes. Si nous entreprenons cet effort et n'éteignons pas l'Esprit, notre être intérieur sera vivifié. C'est la vie éternelle qui nous attend si nous persévérons. Aussi n'osons-nous pas éteindre l'Esprit par désobéissance ou négligence, mais mettons en valeur le rôle sacré et essentiel du Saint-Esprit dans notre vie. Je témoigne que si nous recherchons vraiment le Saint-Esprit, nous tirerons plus pleinement profit de son pouvoir discret, mais essentiel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
As Elder Ballard noted earlier in this session,
comme Frère Ballard l'a déjà fait remarquer au cours de cette session, divers contre-courants de notre époque ont attiré une plus grande attention du public sur l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours. Le Seigneur a dit aux prophètes anciens que cette œuvre dans les derniers jours serait une œuvre merveilleuse et un prodige, et elle l'est. Nous invitons tout un chacun à examiner de près l'aspect merveilleux de cette œuvre, mais il y a une chose que nous voudrions que tout le monde se demande, c'est si nous sommes ou non chrétiens. Dans l'ensemble, les controverses à ce sujet ont tourné autour de deux points de doctrine, notre vision de la divinité et notre croyance au principe de la révélation continue menant à un canon d'écriture ouvert. En parlant de cela, nous n'avons pas à nous excuser de notre foi et ne nous voudrions pas être mal compris. Aussi, avec le désir de faire mieux comprendre et de déclarer clairement que nous sommes chrétiens, vais-je parler aujourd'hui du premier de ces deux points de doctrine. Notre premier article de foi et le plus important de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit ». Nous croyons que ces trois personnages divins, constituant une seule divinité, sont unis pour ce qui est de leur but, de leur manière d'agir, de leur témoignage et de leur mission. Nous croyons qu'ils sont remplis du même sens divin de miséricorde et d'amour, de justice et de grâce, de patience, de pardon et de rédemption. Je crois qu'il est exact de dire que nous croyons qu'ils sont un pour tout aspect important et éternel imaginable. Mais nous ne croyons pas qu'ils sont trois personnages réunis en une seule substance, notion trinitaire jamais énoncée dans les Écritures parce qu'elle n'est pas vraie. En fait, la source réputée qu'est le dictionnaire biblique de Harper dit que la doctrine officielle de la Trinité, telle qu'elle fut définie par les grands conciles ecclésiastiques des 4e et 5e siècles, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. La critique selon laquelle l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ne partage pas la vision chrétienne contemporaine de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit n'est pas un commentaire sur notre engagement envers le Christ, mais en fait la constatation exacte, pourrais-je ajouter, que notre vision de la divinité rompt avec ce qui s'est passé après le Nouveau Testament et retourne à la doctrine enseignée par Jésus lui-même. Il pourrait être utile de rappeler brièvement ce qui s'est passé après la période du Nouveau Testament. En 325, l'empereur romain Constantin a réuni le concile de Nicée pour traiter, entre autres choses, de la question de plus en plus controversée de la prétendue unité de la Trinité. Ce qui a découlé des débats mouvementés entre hommes d'Église, philosophes et dignitaires ecclésiastiques a été connu, après encore 125 ans et trois grands conciles, sous le nom de Credo de Nicée, avec des reformulations ultérieures comme le Credo d'Athanase. Ces diverses évolutions et répétitions de credo, ainsi que d'autres au cours des siècles suivants, déclaraient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient des êtres abstraits, absolus, transcendants, imminents, consubstantiels, coéternels et impossibles à connaître, sans corps, ni partie, ni passion, demeurant en dehors de l'espace et du temps. Selon ces credos, les trois membres de la divinité sont des personnes séparées, mais sont un seul être. C'est le si souvent mentionné mystère de la Trinité. Ils sont trois personnes distinctes, mais un seul Dieu. Les trois personnes sont incompréhensibles, mais sont un seul Dieu qui est incompréhensible. Nous sommes d'accord avec nos détracteurs au moins sur ce point. Cette formulation de la divinité est véritablement incompréhensible. Une définition aussi confuse de Dieu étant imposée à l'Église, il n'est pas surprenant qu'un moine du IVe siècle se soit exclamé « Pauvre de moi, ils m'ont pris mon Dieu et je ne sais pas qui adorer ni à qui m'adresser. » Comment devrions-nous faire confiance à un être qui est incompréhensible et qu'on ne peut connaître, sans parler de l'aimer, de l'adorer et de nous efforcer d'être semblables à lui? Qu'en est-il de la prière de Jésus à son Père Céleste disant « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Nous n'avons pour objectif de rabaisser la croyance de qui que ce soit, ni la doctrine de quelque religion que ce soit. Nous respectons la doctrine de chacun comme nous demandons qu'on respecte la nôtre. C'est aussi l'un de nos articles de foi. Si quelqu'un dit que nous ne sommes pas chrétiens parce que nous n'acceptons pas une vision de la divinité établie au IVe ou Ve siècle, qu'en est-il des premiers saints dont beaucoup avaient été témoins oculaires du Christ, qui n'avaient pas non plus cette vision? Nous déclarons qu'il est évident, d'après les Écritures, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnages distincts, trois êtres divins. Cela est illustré sans aucune équivoque par la prière du Sauveur que je viens de mentionner, par son baptême par Jean, par ce qui s'est passé sur le mont de la Transfiguration et au martyr d'Étienne, pour ne citer que quatre exemples. Avec ces sources du Nouveau Testament et d'autres qui résonnent dans l'oreille, il peut être superflu de demander ce que Jésus voulait dire par « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Une autre fois, il a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Parlant de ses adversaires, il a dit « Ils ont haï et moi et mon Père. » Et il y a bien sûr toujours cette humble soumission à son Père qui a fait dire à Jésus « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Un seul est le bon. Le Père est plus grand que moi. Qui Jésus a-t-il supplié avec tant de ferveur pendant toutes ces années, et notamment quand il s'écriait plein d'angoisse, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Reconnaître la preuve scripturaire que tout en étant parfaitement unis, les membres de la divinité sont néanmoins des êtres séparés et distincts, n'est pas être coupable de polythéisme. Cela fait en fait partie de la grande révélation que Jésus est venu donner concernant la nature d'être divin. L'apôtre Paul l'a peut-être dit le mieux. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Une autre raison pour laquelle l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours n'est pas considérée comme chrétienne par certains est que nous croyons, comme les anciens prophètes et apôtres, en un Dieu incarné, mais certainement glorifié. À ceux qui critiquent cette croyance basée sur les Écritures, je demande au moins pour la forme, si l'idée d'un Dieu incarné vous répugne, pourquoi les éléments centraux et les caractéristiques les plus distinctives de toute la chrétienté sont-ils l'incarnation, l'expiation et la résurrection physique du Seigneur Jésus-Christ? Si le fait d'avoir un corps n'est pas nécessaire ni désirable pour la divinité, pourquoi le Rédempteur de l'humanité a-t-il libéré son corps des liens de la mort et du tombeau, garantissant qu'il ne saurait plus jamais séparer de son esprit dans le temps ni dans l'éternité? Quiconque rejette le concept d'un Dieu incarné rejette le Christ mortel et ressuscité. Personne proclamant être un vrai chrétien ne voudrait faire cela. À tous ceux qui m'entendent et qui se sont demandé si nous étions chrétiens, je témoigne que Jésus-Christ est littéralement le Fils vivant de notre Dieu vivant littéral. Ce Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur qui, sous la direction du Père, a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je témoigne qu'il est né d'une mère vierge, que durant sa vie, il a accompli de grands miracles dont des légions de ses disciples ainsi que de ses ennemis ont été témoins. Je témoigne qu'il avait le pouvoir sur la mort parce qu'il était divin, mais qu'il s'est soumis volontairement à la mort pour notre bien parce que pendant une période, il a aussi été mortel. Je déclare qu'en se soumettant volontairement à la mort, il a pris sur lui les péchés du monde, payant un prix infini pour toutes les peines, les maladies, les chagrins et les malheurs depuis Adam jusqu'à la fin du monde. En faisant cela, il a été vainqueur à la fois du tombeau physiquement et de l'enfer spirituellement, et il a libéré la famille humaine. Je témoigne qu'il est littéralement ressuscité du tombeau, après être monté auprès de son Père pour terminer le processus de cette résurrection. Il est apparu de nombreuses fois à des centaines de disciples dans l'Ancien Monde et dans le Nouveau. Je sais qu'il est le Saint d'Israël, le Messie qui reviendra un jour en gloire, à la fin, pour régner sur la terre en tant que Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Je sais qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel l'homme puisse être sauvé, et que ce n'est qu'en nous reposant totalement sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce infinie que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Mon témoignage supplémentaire concernant cette doctrine splendide est qu'en préparation à son règne millénaire dans les derniers jours, Jésus est déjà venu plusieurs fois dans son corps glorieux et majestueux. Au printemps de 1820, un garçon de 14 ans, troublé par ces mêmes doctrines qui déconcertent une grande partie de la chrétienté, est allé prier dans un bosquet. En réponse à cette prière fervente faite à un si jeune âge, le Père et le Fils sont apparus au jeune prophète Joseph Smith comme deux êtres incarnés et glorifiés. Ce jour a marqué le début du retour du véritable évangile du Nouveau Testament, du Seigneur Jésus-Christ et du rétablissement d'autres vérités prophétiques révélées depuis Adam jusqu'à ce jour. Je témoigne que ma connaissance de ces choses est vraie et que les cieux sont ouverts à tous ceux qui recherchent la même confirmation. Par le Saint-Esprit de vérité, puissions-nous tous connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ensuite, puissions-nous suivre leurs enseignements et être de véritables chrétiens en action autant qu'en parole. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session de conférence du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions ce cœur de jeune fille pour la belle musique qu'il a interprété cet après-midi. Elles ont été très bien. Russell M. Nelson, du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Et après son discours, le chœur chantera « Que mon âme s'élève vers toi ». Et après le cantique, Richard Hinckley, des 70, fera la prière de clôture.
Nous expressions frère Eyring et frère Cook et frère Gonzalez. Nous prions qu'ils bénissent et nous appellent. Nous exprimons nos remerciements aux frères et sœurs dans le monde entier. En même temps, beaucoup de gens se posent des questions sur l'histoire et la doctrine de l'Église. Certains de ces interrogateurs ont choisi de dénigrer le Livre de Mormon. Le manque de considération pour le Livre de Mormon ou tout autre écrit sacré me touche profondément. Pour parler de ce sujet, j'ai intitulé mon discours « Témoin scripturaire ». J'emploierai le mot scripturaire pour parler de ce qui se rapporte à la Bible et aux Écritures du rétablissement. Les membres de l'Église croient que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Ils croient aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. Les Écritures du rétablissement comprennent aussi les doctrines et alliances et la perle de grand prix. Le dictionnaire définit le témoignage comme l'attestation d'un fait ou d'un événement. Le mot témoignage a une signification spéciale quand il s'applique à la parole de Dieu. Dans la Bible, nous lisons la déclaration importante suivante. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Cela assure aux enfants de Dieu que la doctrine divine est confirmée par plus d'un témoignage scripturaire. La Bible et le Livre de Mormon sont tous deux des témoins de Jésus-Christ. Ils enseignent qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a mené une vie exemplaire, qu'il a expié pour tout le genre humain, qu'il est mort sur la croix et qu'il est sorti du tombeau enseigneur ressuscité. Ils enseignent qu'il est le sauveur du monde. Les témoignages scripturaires s'authentifient réciproquement. Ce concept a été expliqué il y a longtemps quand un prophète a noté. Le livre de Mormon a été écrit dans l'intention que vous croyez la Bible, et si vous croyez la Bible, vous croirez le livre de Mormon aussi. Chaque livre se réfère à l'autre. Chaque livre est une preuve que Dieu vit et qu'il parle à ses enfants par révélation à ses prophètes. L'amour du livre de Mormon fait grandir l'amour de la Bible et vice-versa. Les Écritures du rétablissement ne ravellissent pas avec la Bible, elles complètent la Bible. Nous devons beaucoup aux martyrs qui ont donné leur vie pour que nous puissions avoir la Bible. Elle établit la nature éternelle de l'Évangile et du plan du bonheur. Le livre de Mormon rétablit et souligne des points de doctrine biblique comme la dîme, le temple, le jour du sabbat et la prêtrise. Un ange a proclamé que le livre de Mormon établira la véracité de la Bible. Il a aussi révélé que les écrits de la Bible sont disponibles à notre époque, ne sont pas aussi complets qu'ils l'étaient quand ils ont été écrits par des prophètes et des apôtres. Il déclare que le livre de Mormon rétablira des choses claires et précieuses qui ont été ôtées de la Bible. Une prophétie du livre de Mormon avertit que des gens objecteraient la notion d'écriture supplémentaire. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de davantage de Bible, réfléchissez à ce conseil de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il y a plus d'une nation? Ne savez-vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j'ai créé tous les hommes et que je règne dans les cieux en haut et sur la terre en bas, et que je fais parvenir ma parole aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations de la terre. Ne savez-vous pas que le témoignage de deux nations est le témoignage pour vous que je suis Dieu, que je me souviens d'une nation comme d'une autre? C'est pourquoi je dis les mêmes paroles à une nation qu'à l'autre. Et les témoignages des deux nations s'uniront aussi. L'histoire scripturaire de Jésus-Christ se rapporte effectivement aux deux hémisphères. Tandis qu'à l'Est, Marie et Joseph faisaient des préparatifs pour la naissance du Saint-Enfant à Bethléem, à l'Ouest, Néphi était instruit par le Messie prémortel. Le Seigneur a dit à Néphi, « Lève la tête et prends courage. Demain, je viens au monde pour montrer au monde que j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. » À ceux qui doutent de ce deuxième témoignage, le livre de Mormon, le Seigneur a lancé un avertissement. Parce que vous avez traité à la légère les choses que vous avez reçues, vous resterez sous cette condamnation jusqu'à ce que vous vous repentiez, vous souveniez de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le livre de Mormon et les précédents commandements que je vous ai donnés. Non seulement à prêcher, mais aussi à déclarer, à pratiquer ce que j'ai écrit. Le Seigneur a donné d'autres écritures du rétablissement et a déclaré que ces paroles s'accompliront aussi. Par ces témoignages scripturaires, de fausses doctrines seront confondues. Par ces témoignages scripturaires, les points de doctrine de la Bible sont non seulement réaffirmés, mais aussi clarifiés. Comment les écritures du rétablissement clarifient-elles la Bible? Il existe de nombreux exemples. Je n'en citerai que quelques-uns en commençant par l'Ancien Testament. Ésaïe a écrit, « Ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. » Pourrait-il y avoir une meilleure description du livre de Mormon, venant comme il l'a fait de la terre pour murmurer depuis la poussière aux gens de notre époque? Mais Isaïe n'a pas été le seul prophète de l'Ancien Testament à prédire le livre de Mormon. Ézéchiel a écrit « Prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël. Rapprochez-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce en sorte qu'elles soient unies dans ta main. » Aujourd'hui, les saints de nombreux pays tiennent avec reconnaissance la Bible, le bois de Juda, et le livre de Mormon, le bois d'Éphraïm, ensemble dans leurs mains. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Le livre de Mormon est aussi un témoin scripturaire de ses enseignements. Il y a, par exemple, la naissance miraculeuse de l'enfant à Bethléem, son sermon sur la montagne et les souffrances intenses du Sauveur. La doctrine de la résurrection est mentionnée plus souvent dans les livres de Mormon que dans la Bible. Le besoin du Saint-Esprit a été mentionné par Paul qui a demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ce point de doctrine est clarifié par un autre témoignage scripturaire, transmis par le prophète du rétablissement, suscité par le Seigneur. Il nous a enseigné qu'il faut croire au don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Ce don précieux et puissant est de nouveau à la disposition des enfants de Dieu. Paul s'est référé aux trois degrés de gloire qui viendront après la condition mortelle quand il a enseigné. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Cet aperçu de gloire d'après la mort a été clarifié par un autre témoignage scripturaire. Le Seigneur a révélé que la gloire des célestes est une, tout comme la gloire du soleil est une, et la gloire des terrestres est une, tout comme la gloire de la lune est une, et la gloire des célestes est une, tout comme la gloire des étoiles. Le plus haut de ces royaumes, le royaume céleste, est réservé à ceux qui ont obéi à la loi de ce royaume. Et ceux qui ne sont pas sanctifiés par la loi du Christ doivent hériter d'un autre royaume, un royaume terrestre ou un royaume céleste. Car celui qui n'est pas capable de se conformer à la loi d'un royaume céleste ne peut pas supporter une gloire céleste. Ces trois degrés de gloire se rapportent à la vie après la mort. Ils concernent l'immortalité de l'âme humaine. Ce don d'immortalité est devenu réel grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Ce mot important, expiation, sous toutes ses formes, n'est mentionné qu'une fois dans la version du roi Jacques du Nouveau Testament, dans le livre de Mormon, il figure 39 fois. Jean a écrit dans l'Apocalypse du Nouveau Testament qu'il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Un ange bien précis détenait les clés de la responsabilité du livre de Mormon. C'est l'ange Moroni. Ces exemples ne sont que quelques-uns des nombreux points de doctrine de la Bible qui sont clarifiés par des Écritures du rétablissement. Une petite partie de la connaissance de Paul sur le baptême pour les morts figure dans le Nouveau Testament. Cette doctrine divine n'est clarifiée que dans les Écritures du rétablissement. Nous faisons bien volontiers connaître les écritures du rétablissement aux gens dans le monde entier. Le livre de Mormon rapporte le ministère du Seigneur ressuscité auprès d'habitants de l'Amérique ancienne. Méditez sur les vérités éternelles qu'il a proclamées. Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. J'étais avec le Père dès le commencement. Les Écritures concernant ma venue se sont accomplies. Je suis la lumière et la vie du monde. Le Sauveur continue. Et quiconque vient à moi, le cœur brisé et l'esprit contrit, je le baptiserai de feu et du Saint-Esprit. Voici, je suis venu au monde pour apporter la rédemption au monde et pour sauver le monde du péché. C'est pourquoi quiconque se repent et vient à moi comme un petit enfant, je le recevrai. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. J'ai donné ma vie et l'ai reprise. C'est pourquoi repentez-vous et venez à moi et soyez sauvés. Ces déclarations du Sauveur résument qui il est réellement et à qui il veut réellement que nous soyons. Il veut que nous allions à lui et le moment venu que nous soyons enserrés en gloire dans ses bras aimants. Je suis extrêmement reconnaissant des témoignages scripturaires. J'ai vu les changements profonds qui s'opèrent chez les gens qui appliquent les enseignements du Seigneur. Ces transformations conduisent à la bénédiction de la vie éternelle. Je sais que Dieu vit. Jésus est le Christ. Son évangile a été rétabli dans ces derniers jours. Gordon B. Hinckley est son prophète actuellement. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our holy and eternal Father who art in heaven.
Notre bon Père céleste qui est dans les cieux. Nous te remercions pour cette réunion. Nous sommes très reconnaissants pour ce que nous avons appris. On nous a enseigné cet après-midi avec beaucoup plus que simplement des mots. Puissions-nous prendre dans notre vie les choses que nous avons entendues et que nous avons ressenties. Puissions-nous avoir la résolution d'être meilleurs, de te servir mieux, d'utiliser mieux notre temps à ton service pour porter dans notre cœur le trésor de la doctrine de l'Évangile rétabli que nous avons entendu d'une manière si éloquente cet après-midi. S'il te plaît, bénis-nous maintenant et nous te remercions avec ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen.
This has been a broadcast of the 170.
Vous venez d'assister à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur de jeunes filles des pieux de Mapleton et de Springville, Utah, en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.